L'invité de la rédaction.
Et l'invité de la rédaction de RCJ est Jean-Pierre Robin, universitaire français et ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Bonjour, merci d'être avec nous sur RCJ.
Bonjour.
Alors vous publiez aux éditions Hermann un essai au titre sans équivoque, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, un livre où vous racontez à l'aide d'exemples très très concrets ce qui s'est passé ces 20 dernières années au sein de l'éducation nationale, et ce d'ailleurs de la maternelle à l'université. Alors avant de rentrer dans les détails de votre livre et du constat que vous faites, mais aussi des solutions que vous apportez, je voulais revenir sur votre parcours, et si je me permets de le faire, c'est que vous consacrez un chapitre justement à vos origines. Vous êtes né pendant la Seconde Guerre mondiale, vous êtes fils d'ouvrier, votre père était ajusteur, votre mère blanchisseuse, pardon, et vous soulignez un engagement à gauche qui ne vous a jamais quitté.
Oui, c'est exact, c'était un engagement familial. Mon père a adhéré à la SFIO, Parti Socialiste de l'époque, dans l'avant-guerre. Il a été conseiller municipal de Puteaux. Et puis mon frère aîné, qui avait 19 ans de plus que moi, s'est engagé, lui, à la libération dans le Parti communiste français. Il est devenu un apparatchik. Et donc à la maison, les conversations étaient animées. Ma mère étant plutôt catholique de gauche, elle, en tout cas croyante, entre ces différentes versions de la gauche, démocratique, chrétienne, marxiste.
Et vous avez donc vous-même enseigné en Algérie pendant 3 ans, dans vos plus jeunes années ?
Oui, c'était mes premières armes, si je puis dire. Juste après l'indépendance, en 1965, nous sommes arrivés avec mon épouse, qui était professeure de mathématiques, et moi, sortant d'une école d'ingénieur, j'enseignais la physique, dans un lycée qui était à l'époque mixte, entre filles et garçons, ce qui était rare en Algérie, dans la petite ville de Tiarette, qui est située sur les hauts plateaux du sud oranais.
Alors Jean-Pierre Robin, donc vous avez rendu entre guillemets célèbre en 2004 avec ce rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, un rapport qui à l'époque avait été enterré par François Fillon. Vous expliquez le contexte hein, dans le livre. Il était alors ministre de l'Éducation, mais votre engagement il date de 1996. Ce jour-là, vous l'expliquez dans le livre, vous visitez un collège près de Lyon, et à la fin de la visite, le proviseur, Jean-Paul Le Chiche vous dit ceci: Monsieur l'inspecteur général, je dois vous dire que mes deux derniers élèves juifs vont quitter mon établissement cette semaine. Alors cela vous interpelle, vous n'en dormez pas de la nuit, vous faites circuler une note sur cet événement qui vous paraît étrange, vous essayez de comprendre et vous écrivez ceci, la lettre reste, enfin, lettre morte en haut lieu, et vous dites: les persécutions d'enfants juifs ne sont donc pas pour eux un sujet, elles peuvent donc attendre, elles attendront.
Oui, c'est pas mon engagement, c'est ma prise de conscience hein, de la radicalisation d'une partie de la jeunesse d'origine maghrébine, des élèves en particulier dans les établissements scolaires, et de la naissance de ce qu'on appelle depuis un nouvel antisémitisme. J'en prends conscience en 1996 à l'occasion de cette visite dans un collège. Je me dis que ce qui se passe au collège Longchambon de Lyon doit sans doute se passer ailleurs en France, que des tas de gens doivent être au courant et se taire. Par exemple, les responsables de l'éducation nationale qui recassent discrètement les élèves juifs expulsés par la violence verbale et violence physique de ces établissements dans d'autres établissements publics, quand les familles ne choisissent pas l'enseignement privé, notamment à Lyon, l'enseignement privé catholique qui est puissant. Donc je prends conscience de cela et j'essaye d'alerter les deux collègues inspecteurs généraux qui sont en responsable de cette enquête sur les ZEP à laquelle je participe, pour leur dire, vous voyez ce qui se passe aussi dans les ZEP. Il y a vraiment un phénomène nouveau. Quand le rapport paraît, rien. Parce que bon, ce qu'on attend, ce qu'un ministre attend, ce que l'institution attend dans un rapport de l'inspection générale sur les ZEP, c'est les solutions pour remodeler la carte des ZEP, c'est la question de l'indemnité, de la stabilité des enseignants, c'est les méthodes pédagogiques, et l'antisémitisme n'est pas un sujet, tout simplement.
Et puis vous dénoncez très rapidement cette attitude du pas de vague qui encourage finalement les chefs d'établissement et les personnes en haut lieu à ne pas parler de ces sujets qui ont été très très longtemps tabous.
Oui, et qui le restent d'ailleurs en partie. Je pense que Par exemple, aujourd'hui, sur la question du harcèlement des élèves, du phénomène de bouc émissaire et du cyberharcèlement, on a un phénomène qui a une ampleur en fait considérable, avec des retombées psychologiques, voire encore plus dramatiques, des suicides parmi les adolescents. Et l'institution garde là-dessus un silence, une discrétion tout à fait étonnante.
Et vous dites, hein, la droite et la gauche au pouvoir ont mené pendant 20 ans des politiques de gribouille, incapables d'envisager cette question sur le long terme et de la traiter au fond.
Oui, on a poussé la poussière sous le tapis d'une manière systématique parce que, on ne savait pas traiter ce problème-là. C'était un problème, au fond, tellement dilué dans le temps, enfin, dont on voyait bien qu'il venait de loin et qu'on ne le maîtriserait pas par des simples mesurettes, que on a préféré tous les ministres ont préféré laisser ça à leurs successeurs ou ne pas en entendre parler. Je donne l'exemple de Gilles de Robien qui avait succédé à François Fillon et qui, recevant une délégation de la LICRA, qu'il l'interroge sur notre rapport et sur les suites qu'il comptait lui donner, dit benoîtement, le rapport Roubin est caduque.
Voilà. Alors ce fameux rapport, je vais vous citer, vous raconter, donc évidemment vous montez une équipe et vous dites notre doyen, Jean-Paul Delahaye, qui faisait partie donc de notre équipe, nous livre cette anecdote qui l'a beaucoup affecté. Interrogeant un groupe d'enseignants d'un lycée qui évoquait devant lui le départ de leurs élèves juifs, donc on en parle il y a un instant, il leur demanda ce qu'ils pensaient et leur avis sur la cause de ces départs. C'est simple, répondirent-ils, ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre. J'avais maintenant la certitude que le départ forcé des élèves juifs de beaucoup d'établissements public était un phénomène national. Même le collège de Bourg-Saint-Andréol en Ardèche, où j'étais allé, n'était pas épargné par ce nouvel antisémitisme.
Oui,
parce que là aussi, c'est une manière de déconstruire un discours, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que de quartiers difficiles, on ne parle pas que de quartiers populaires. Vous avez des remontées au moment, donc en 2003-2004, où vous faites ce rapport de nombreux établissements où des incidents existent.
Oui, alors concernant l'antisémitisme, effectivement, ce qu'on disait à l'époque, ce qui se disait, on avait bien, c'était qu'il y avait des bagarres entre les juifs et maghrébins, et d'origine maghrébine plutôt, dans les établissements scolaires, en lien avec les événements du Moyen-Orient. Alors c'est vrai que l'antisémitisme, enfin les actes antisémites plutôt, connaissent toujours des flambées en France qui sont liées à des événements qui se déroulent au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Mais moi, ce que j'avais observé, c'était pas ça. C'était le harcèlement, la persécution d'un certain nombre d'élèves juifs par des élèves d'origine maghrébine et la nécessité devant laquelle leur famille se trouvait de les protéger, pour les protéger, de les changer d'établissement. C'était ça, la réalité. Mais on voit bien que cette vision de la bagarre, entre guillemets, avait évidemment son succès chez les professeurs parce que ça les exemptait de toute responsabilité chez les professeurs et les chefs d'établissement. Ah, ils ne sont pas assez nombreux, comme si l'établissement scolaire, l'institution, la République n'avait pas une responsabilité de protection par rapport à ses élèves, tout simplement. Ah. Non. Fallait qu'ils gèrent leur insécurité eux-mêmes.
Alors vous décrivez à juste titre des professeurs complètement désemparés par rapport à cette question. Alors pour mettre l'antisémitisme pas de côté, on va parler maintenant d'islamisme, c'est-à-dire de ces deux idéologies, c'est-à-dire le frérisme, hein, les frères musulmans, l'idéologie des frères musulmans que vous décrivez aussi, et le salafisme, et vous expliquez en quoi elles sont différentes, en quel point les projets sont différents. Alors vous donnez des exemples assez difficile, assez concret. Vous parlez d'un drapeau français impossible d'afficher, enfin de le mettre sur le fronton d'une école à Grenoble puisqu'il est constamment brûlé. Vous parlez même de problèmes au sein même de l'enseignement avec ces professeurs qui signent un livre qui contredit la théorie de l'évolution. Vous voyez des signes inquiétants. Vous parlez même dans les maternelles, dans un âge très 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 jeune, d'enfants qui ne veulent pas se tenir la main à leurs petites camarades.
Oui, donc la diversité des atteintes à la laïcité, est stupéfiante. Hein, déjà en 2004 et encore plus maintenant, quoique. En gros, c'est quand même toujours le même type d'atteinte. Ce qui a changé en 16 ans, c'est que ces atteintes sont beaucoup plus nombreuses, plus graves, et surtout que le spectre s'est élargi. D'abord, c'est plus quelques établissements qui sont concernés que nous avions visités en 2004, c'est l'ensemble du territoire national, d'après les remontées du ministère. Et puis surtout, on a des différences importantes. Par exemple, le premier degré, le primaire, qui n'apparaissait que très peu en 2004, aujourd'hui représente, selon les remontées du ministère, 37% des atteintes à la laïcité. Les élèves ne sont plus que 57% les auteurs de ces incidents. Je ne sais plus quoi.
23%,
merci.
Ce sont les parents.
Ce sont les parents, et pour 11%, ce sont des personnels de l'éducation nationale. Donc, on est devant une situation bien plus grave, en fait, qu'en 2004. Pourquoi ? Ben parce qu'on a laissé les choses dériver.
Alors, on va concrètement parler de ce problème et surtout des solutions que vous préconisez. Mais on va, par rapport à 2004, faire un bond d'une dizaine d'années. 10 ans, vous le dites, l'islamisme a progressé. Vous venez d'en faire la démonstration. Mais la crainte de stigmatiser a exercé une sorte d'autocensure sur le corps enseignant. Et la thématique de l'islamisme à l'école arrive dans le débat subitement au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Le ministère de l'Éducation nationale, à ce moment-là, ordonne une minute de silence dans les classes en hommage aux victimes. Et alors là, le ministère de l'Éducation relève des centaines d'incidents partout en France, des refus, des chahuts, des injures, des menaces à l'encontre des enseignants, l'expression d'une solidarité avec les tueurs plutôt qu'avec les victimes, c'est ce que vous écrivez. Il parle moins du repli de certains professeurs devant la peur, des contestations et l'absence dans certains établissements de toute manifestation de recueillement par crainte du désordre. Deux questions, il y a une prise de conscience du monde politique à ce moment-là, du problème, il apparaît. Et puis, il y a aussi ce problème de l'autocensure et de la crainte dans le corps enseignant.
Oui, alors premier problème, la prise de conscience d'une partie de la classe politique. Je crois qu'il faut rendre hommage ici à Manuel Valls, qui immédiatement pense au rapport de 2004 et dit, ce rapport d'un inspecteur général avait déjà... Rien n'a changé, en gros. Et Najat Vallaud-Belkacem reprend ce jugement, rien n'a changé. Ce à quoi par rapport à quoi j'apporte des nuances. Non, ce n'est pas vrai que rien n'ait changé. Les choses se sont aggravées. Et depuis, on a aussi un deuxième élément qui est important. On a non plus une enquête comme celle de l'inspection générale de 2004, qualitative, mais on a des chiffres, on a des statistiques, on a des études scientifiques de chercheurs reconnus et renommés sur cette question de la montée de l'islamisme chez, en particulier, les élèves et chez les jeunes musulmans en général. Donc on a maintenant un tableau beaucoup plus complet, beaucoup plus fourni de cette dynamique qui se développe dans la société française.
Alors vous décrivez, je l'ai dit dans le détail, la stratégie des frères musulmans, vous revenez aux racines de ce qu'on appelle donc le salafisme, et puis vous donnez des exemples très concrets de familles influencées par le salafisme qui font sortir leurs enfants du circuit scolaire parce que c'est impossible de se plier au mode de vie de la République, et on parle là d'élèves qui sont souvent très brillants.
Oui, chez les filles en particulier, on a des jeunes filles, des lycéennes, à plusieurs reprises ces témoignages m'ont été apportés, qui se déscolarisent et décident de partir parce qu'elles ne supportent plus de devoir adopter des modes de comportement à l'intérieur du lycée qui est contraire à ce qu'elles pensent être les normes de leur religion. Par exemple, retirer leur voile, s'habiller... de manière européenne, en quelque sorte, dans l'établissement scolaire, devient quelque chose d'insupportable. Et ces jeunes filles, d'ailleurs, évidemment, les chefs d'établissement, les professeurs cherchent à les retenir, à éviter la déscolarisation, voire parfois le départ à l'étranger. Et donc, leur expliquent la laïcité, la nécessité de vivre ensemble dans la même société, de tolérer, etc. Et elles ont une très bonne connaissance de la laïcité. Ce n'est pas le problème, la connaissance. C'est qu'elles ne veulent pas vivre dans une société laïque.
Alors, vous parlez d'un islam que vous connaissez bien, je l'ai dit, vous avez vécu en Algérie, et vous dites ceci que j'ai trouvé très intéressant, vous dites que, d'une part, il ne faut pas nier un lien entre l'islam et l'islamisme, qui est une version dévoyée de l'islam, et vous expliquez qu'à l'islamisme s'oppose le populisme et que l'un se nourrit de l'autre. Ce sont deux dynamiques, vous le dites, deux forces en mouvement, deux frères ennemis, ce sont des chiffons rouges bien agités par l'adversaire qui permettent à chaque camp d'agréger ses propres partisans. D'un côté, tout attentat, toute provocation islamiste, toute image de combattants barbus ou de femmes intégralement voilées, toute vidéo de procession de réfugiés syriens renforce mécaniquement le vote d'extrême droite. De l'autre, l'obsession migratoire et la haine xénophobe des populistes, principaux carburants de leur vote, confortent le sentiment victimaire d'un repli identitaire dans les quartiers musulmans. Voilà, populisme et islamisme partagent d'ailleurs le même point de vue. Pour eux, pas de différence à faire entre l'islam et l'islamisme.
Oui, bon, c'est un constat et c'est également une crainte. Ce sont les deux grandes dynamiques aujourd'hui que l'on observe dans la société française. Hein. Cette dynamique qui est bon, maintenant bien documentée sur l'opposition aux valeurs de la République, de la jeunesse musulmane, enfin d'une partie de plus importante d'entre elles. D'une part, et de l'autre part, bah, il suffit de regarder, pas seulement la France, mais en Occident, l'arrivée au pouvoir de leaders populistes un peu partout, qui s'alimentent partout de la xénophobie d'une partie des populations, et du rejet, en particulier, des musulmans et des immigrés d'origine musulmane. Donc voilà, ces deux dynamiques s'alimentent l'une l'autre, c'est évident aujourd'hui sur le plan politique. Et ce que je dis de plus, c'est qu'elles partagent le même point de vue et au fond le même projet politique. Le même point de vue, c'est qu'il n'y a pas de différence à faire entre islam et islamisme. Hein ? Pour les uns, parce que ce sont les vrais musulmans, les seuls musulmans, les islamistes, et puis pour les autres, parce que l'islam, c'est la religion à combattre. Le mal n'est pas l'islamisme, c'est l'islam lui-même. C'est l'islam qu'il faut rejeter. Et donc, ils partagent de ce point de vue le même point de vue. Et puis, ils ont le même projet politique, c'est-à-dire que ce qu'ils souhaitent, au fond, c'est une société d'apartheid social. C'est-à-dire où chacun, dans sa communauté, dans ses quartiers, gouvernerait les siens. Et cette séparation, qui prend la forme... je dirais, présentable du multiculturalisme, voire du communautarisme, est au fond partagé par les uns et les autres.
Alors vous expliquez aussi que l'islamisme, enfin si l'islamisme a réussi à s'imposer, c'est que le modèle républicain, lui, il s'est affaibli, il est en crise. Vous dites, tous ces signaux alarmants ne mériteraient peut-être pas le pessimisme si notre démocratie était unie et sûre d'elle-même.
Oui, donc là, c'est toute une série d'études. Je pense à Yosha Munk, par exemple, le professeur à Harvard, qui a suivi cette question de l'évolution et de la perte de confiance en la démocratie depuis de très nombreuses années et dans beaucoup de pays du monde. C'est une étude mondiale qu'il a entrepris et qui montre qu'aujourd'hui, parmi les populations les plus jeunes, l'opinion selon laquelle il n'est pas important de vivre dans un pays démocratique, que vivre dans un pays démocratique n'est pas important, recueille une majorité d'opinion chez les jeunes Français et une très grande majorité d'opinion chez les jeunes Américains. Donc il y a là, et comme il a suivi ça sur plusieurs dizaines d'années, on voit dans l'évolution des chiffres, on voit que bon, il y a une vraie dynamique qui est que plus on est jeune, moins on a confiance à la démocratie et moins on est prêt à la défendre.
Alors c'est un livre qui dresse un bilan assez pessimiste de la situation, mais qui tente d'apporter des solutions, notamment dans les deux derniers chapitres. Et justement, j'aimerais qu'on développe ces pistes de réflexion, ces solutions. Pour vous, cela passe déjà par la formation des enseignants, c'est-à-dire de leur donner vraiment tous les outils pour répondre à des situations compliquées que vous décrivez dans le livre, pour désamorcer les situations délicates, notamment quand on enseigne la Shoah. Autre solution, selon vous, contre la montée donc de l'islamisme à l'école, c'est l'école elle-même. Et pour vous, c'est de retrouver de la mixité dans les quartiers, c'est-à-dire éviter l'homogénéité sociale.
Alors, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas combattre l'islamisme dans une situation globale où les populations sont de plus en plus regroupées, où la France se balkanise, s'archipélise, dit Jérôme Fourquet, et où ces regroupements, qui deviennent parfois des ghettos, véritables ghettos, font que les leaders islamistes dans ces quartiers musulmans, ou très largement peuplés de musulmans, ils sont comme poissons dans l'eau. Voilà. Et donc on ne peut pas raisonnablement penser que dans ce contexte-là, on puisse intégrer, puisque on vit en autarcie. Donc intégrer à quoi ? À quelle société, à quelle nation, dont on n'a absolument pas connaissance, dans la vie que l'on a dans la société, dans la famille, etc. Bon. Donc c'est un véritable préalable. De plus, l'école sursegrègue par rapport au quartier. Quand vous demandez à un principal de collège, par exemple, la proportion d'enfants musulmans ou d'origine maghrébine qu'il a dans son établissement, il vous donne un chiffre approximatif, et lorsque vous regardez ce chiffre, vous demandez au maire de la commune la proportion dans tel quartier, vous avez toujours une surreprésentation des élèves musulmans d'origine maghrébine dans le collège, par tous les jeux d'évitement de parents que l'on connaît.
Que vous expliquez, hein, c'est-à-dire oui. Les parents qui évitent certaines zones, qui trouvent une astuce pour éviter la carte scolaire.
Oui. Ou une astuce, l'enseignement privé n'est pas une astuce, c'est un droit.
Oui, c'est un droit.
Voilà, donc ce qui est certain, c'est que là, il y a un véritable effort à faire. Si on veut vraiment intégrer à la nation ces populations qui s'en séparent, c'est le mot utilisé par le président Macron, eh bien, il faut pouvoir vivre dans une société où la variété des origines, la variété des religions, la variété des classes sociales aussi, devient la norme.
Et donc ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics.
Ça, c'est la responsabilité majeure des pouvoirs publics.
Les enseignants, vous les décrivez souvent totalement démunis. Vous dites que la formation sur la laïcité qu'ils peuvent recevoir est totalement inutile, elle est mal faite. Que faudrait-il leur donner comme outil pour qu'ils puissent désamorcer des situations et faire avancer les choses dans le bon sens ?
Alors, la formation des enseignants, non seulement est mal faite, mais elle n'existe pas, puisque dans le sondage IFOP pour le Comité national d'action laïque de 2018, sur un échantillon représentatif de l'ensemble des enseignants du public, 6% d'entre eux déclarent avoir reçu un enseignement, une formation à la laïcité. Et parmi les jeunes enseignants qui sont dans les universités, qui passent leur année de stage à mi-temps entre un poste d'enseignement et puis l'université, un quart seulement a eu un enseignement à la laïcité, et parmi ce quart, la moitié disent qu'il était de mauvaise ou de très mauvaise qualité. Donc on est là devant une situation dramatique. Et il y a deux pistes importantes pour essayer de pallier cette situation. C'est d'une part avoir une connaissance claire de la laïcité, parce que le récent rapport de l'inspection générale de novembre 2019 sur la question montre que la laïcité est une opinion, et selon son opinion, on va faire un enseignement de la laïcité, on va dire aux élèves des choses qui refléteront cette opinion. Or, il y a une version objective de la laïcité, qui est la version juridique, le droit. Que dit le droit ? Que dit la Constitution ? Que dit la loi de 1905 ? Que disent d'autres textes juridiques ? Et c'est à cela qu'il faut former les enseignants. C'est la seule base stable d'un enseignement, c'est de dire, voilà, dans les textes, ce qu'est le principe de laïcité. Et la deuxième chose, c'est de les former à des compétences pratiques pour faire face aux incidents qu'ils peuvent rencontrer. Et ça, il n'y a pas d'autre méthode, à mon avis, que de partir de situations réelles, concrètes, vécues par eux-mêmes ou par d'autres enseignants, pour analyser la situation dans ses différentes composantes.
Et la désamorcer.
Voilà, et tenter de trouver les bonnes ou les meilleures décisions possibles face à une situation qu'on aura d'abord analysée.
Alors, ça sera ma dernière question, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. C'est ce point assez intéressant. Vous encouragez les pouvoirs publics à justement encourager en France l'islam des Lumières. Vous expliquez que ce que l'on vit en France est finalement une conséquence d'un débat interne qui sera long au sein même de l'islam entre les progressistes et les salafistes, et que l'apaisement prendra des siècles, comme ce fut le cas entre l'État, le christianisme en France, et que la France a sa part à jouer en encourageant cet islam des Lumières qui existe et qui ne demande qu'à s'exprimer.
Oui, alors d'abord, l'islamisme, vous l'avez dit tout à l'heure, vient de loin. Enfin, cette idéologie politique, hein, qui n'est pas une religion, qui est une idéologie politique, a deux sources. Bon, le salafisme et les frères musulmans, pas développés. De toute façon, il faut combattre cela d'une manière la plus efficace possible, hein, et donc prendre conscience que ça sera forcément un combat global. C'est pas seulement en France que se manifeste l'islamisme, mais c'est d'abord dans les pays musulmans, et puis un combat de longue durée, comme le dit Marcel Gauchet. En France, pour aboutir à la démocratie, il a fallu 5 siècles, hein, pour sortir de la religion au sens où il l'entend, c'est-à-dire pour que la religion ne soit plus l'unique guide de la vie, de la plus intime jusqu'à la plus commune, en commun, c'est-à-dire jusqu'au savoir qui gouverne, la dimension politique. Donc là-dessus, je crois que la lutte contre l'islamisme doit s'inscrire dans cette vision globale et dans cette vision à long terme.
Merci Jean-Pierre Robin. Donc je rappelle que vous publiez aux éditions Hermann « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école », un essai où donc vous racontez ce qui s'est passé ces 20 dernières années au sein même de l'éducation nationale. Merci d'avoir été notre invité. Voilà, c'est la fin de ce 12-13. Je vous donne rendez-vous demain à 8h sur RCJ. Dans un instant, on va parler santé avec Karen Taïeb.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.